7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Amélie Beaucourt.
Bonjour et ravi de vous retrouver dans 7 milliards de voisins. Pour célébrer les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, on va se pencher aujourd'hui sur ces millions de femmes qui font partie de la diaspora algérienne ici en France. Depuis les plus âgées venues rejoindre leur mari ou leur père à l'aube de l'indépendance et à leur grande désillusion en arrivant, mais on s'intéresse aussi à leurs filles et petites filles nées ici avec ce sentiment de n'être ni tout à fait française ni tout à fait algérienne. Entre le cliché de la beurette ou celui de la musulmane, l'image a changé. Encore une fois, malgré elle. Mais aujourd'hui, elle lutte encore pour faire entendre leur voix, loin du poids des étiquettes et des traditions. Pour en parler avec nous, Latifa Mouawed, journaliste chez RFI et autrice du podcast La France, mon bled, et Naïma Huber-Yahi, historienne et spécialiste du fait culturel de l'immigration. Si vous voulez en discuter avec nous, appelez-nous dès maintenant sur le WhatsApp de l'émission, le 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Latifa Mouawed, Naïma Huber-Yahi, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va écouter tout au long de cette émission des extraits de votre podcast, Latifa, que vous avez réalisé avec Jérémy Besset pour RFI. Cette idée de faire un podcast sur ces parcours de femmes de la diaspora, d'où est-ce qu'il vous est venu ?
Alors, j'ai toujours souhaité réaliser un podcast ou un reportage à propos des femmes. Et cette idée... petit à petit a pris forme dans mon esprit et je me suis dit, mais ce que je connais le mieux, c'est justement les femmes algériennes, c'est ce que je suis, ce que ma grand-mère, ma mère sont. Et c'est comme ça, et à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, je me suis dit, bah, c'est ça qu'il faut faire, il faut parler de ces femmes, parce que cette histoire, elle est à la fois algérienne, mais elle est aussi française. Et comme moi, je suis algérienne, mais aussi et avant tout française.
Alors c'est un podcast qui compte 5 épisodes et qui commence par l'arrivée des plus âgés d'entre nous, dont Fatna, 86 ans, qu'on écoute tout de suite.
Je suis arrivée en Espagne par bateau, seule, avec mes 3 enfants. J'ai pris le train de nuit. Mon oncle est venu me chercher.
Alors,
sur la route, je lui demandais, mon oncle, où est le bâtiment ? Il me répondait, nous ne sommes pas arrivés. On continue de rouler, alors je lui repose la question. Mon oncle, c'est ici ? Non, ma nièce. Mon oncle, c'est ici ? Où est le bâtiment ? Ce n'est pas encore là. Quand je suis arrivée près de la Seine, il n'y avait que de la ferraille, des bidons d'acier, des orties, des ronces. Puis à Nanterre, il n'y avait rien, à part le bidonville. J'ai dit, mon oncle, c'est ici ? Il m'a répondu, oui. Je suis alors tournée vers mon mari, je lui ai dit, c'est ça, les habitations de France ? Il m'a répondu, tu n'as encore rien vu. Qu'est-ce qui m'attend ? Entre, tu verras.
Latifa Mouawed, qu'est-ce qu'elle découvre en entrant ?
Alors, Fatna, qui a aujourd'hui 86 ans, donc est arrivée dans les années 60 au bidonville de Nanterre. Donc, son mari était un militant actif du FLN. Hein, il faisait partie des groupes de choc du FLN. Et il avait été expulsé d'Algérie. Il avait été emprisonné là-bas. Il a été expulsé. Il avait craint pour la sécurité de sa femme et il l'a fait venir en France. Et Fatna a quitté une région un peu montagneuse, donc un village. Hein, parce que là-bas, c'était des villages un peu possédés par des clans familiaux. Et donc, elle quitte donc la campagne et elle arrive ici. Déjà, la météo, c'est triste. Et elle découvre le bidonville qui est fait de bidons, de ferraille, de... Et là, pour elle, c'est le choc, quoi.
Et c'est pas la seule femme qu'on entend qui parle, qui évoque les bidonvilles de Nanterre. Naïba Uberyahi, c'était quelque chose d'assez énorme, ces bidonvilles. On parle de combien de personnes qui étaient logées à ces endroits?
Ça pouvait monter jusqu'à 10 000 personnes. Il y avait deux grandes communautés qui vivaient en bidonville, les Portugais et les Algériens. Et dans les grands bassins d'emploi, à Marseille, en région Rhône-Alpes ou ici en Île-de-France. Et l'immigration algérienne, paradoxalement, durant la guerre d'Algérie et ensuite, après l'indépendance, a vu sa population en France métropolitaine doubler du fait de la guerre, des recoupements de population sur le terrain de guerre en Algérie et aussi les besoins de main-d'œuvre qui s'accéléraient en métropole. Tout ça explique l'entassement de cette main-d'œuvre bon marché qui était aussi engagée en faveur de l'indépendance algérienne. Se retrouver dans des conditions de vie déplorables aux portes de Paris. Et cette situation va perdurer un certain temps, puisqu'il faudra attendre le tournant des années 80 pour cette résorption du mal-logement, et notamment d'abord l'édification de ce qu'on appelle les cités de transit, et ensuite le relogement dans les grands ensembles qu'on a connus ensuite, avec tous les maux sociaux qu'ils ont engendrés. C'est l'histoire du logement, du mal-logement, des plus pauvres et notamment de l'immigration algérienne que vont connaître ces femmes qui vont arriver soit pendant la guerre d'Algérie, soit au lendemain de l'indépendance algérienne.
Alors on parle souvent des bidonvilles, mais il faut savoir qu'il y avait aussi des familles qui vivaient dans des wagons de train. Voilà, moi j'ai rencontré des femmes qui ont vécu dans un wagon de train aménagé par leur mari.
Des wagons abandonnés qui stationnaient en gare ?
Oui, c'est un peu dans les gares, quoi, enfin un peu abandonné.
C'était le cas à Toulouse, par exemple, aux Trois Cocus. On avait des familles entières qui, à la suite des populations nomades, avaient été logées dans des wagons avant de connaître ensuite les cités de transit et les quartiers comme la briqueterie à Toulouse ou d'autres territoires comme ça. Les conditions étaient vraiment dignes des Misérables de Victor Hugo. On était vraiment dans une situation de précarité qui était parfois pire que celle laissée dans le théâtre de guerre algérien. Et ces femmes ont dû se relever les manches et faire face à ce pays qui était parfois hostile, de son climat, de ses contrôles de police et aussi de cette vie qui n'en était pas une. Et c'est dans ces conditions qu'ils vont avoir leurs enfants qui vont grandir les pieds dans la boue pendant de nombreuses années.
Et dans ces conditions terribles, dans ces bidonvilles et ces wagons, il y a aussi des enfants plus jeunes, effectivement, qui subissaient les conséquences politiques aussi de la guerre en Algérie, ici à Paris. Salika est l'une d'entre elles.
Je suis, et mes frères et sœurs, on est des enfants de la guerre. On était impliqués directement parce que mon père était membre du FLN et il était vivement recherché parce que l'on appelait ce que ma mère appelait la sortie. Pendant longtemps, on appelait ça aussi la sortie, puisqu'on répétait un petit peu les mêmes mots. Et en fait, elle parlait de la sûreté. Et donc, avec l'accent arabe, elle disait la sortie. Donc, nous, on disait la sortie en français. On n'a jamais habité au même endroit, puisque mon père était recherché. On a squatté à gauche, à droite. On a eu une scolarité très, très chaotique. On était obligés de se cacher. Et puis il est arrivé un moment où on s'est stabilisé, parce qu'on avait squatté une maison qui se trouvait à Noisy-le-Sec, qui pour nous, c'était quasi un paradis terrestre, parce que c'était une maison avec d'énormes champs, des vergers, on avait un jardin. Bon, bien sûr, on n'avait pas de salle de bain, on n'avait pas l'eau à l'intérieur, on n'avait pas véritablement le chauffage, mais ça a été un paradis parce qu'on était enfin, entre guillemets, un semblant de chez soi. Et puis cette stabilité, bien évidemment, a fini par nous rattraper, puisqu'on a eu quand même subi des violences très régulières de la part de la sûreté, parce qu'en pleine nuit, on avait la police qui venait nous réveiller, fouiller toute la maison. J'aime pas parler en fait de cette époque. De déchirer les photos. J'ai pas de photos de ma jeunesse. Bon, enfin bref, c'est dur pour moi de parler finalement de cette période.
Latifa Mouawed, on sent toute l'émotion qui se dégage de ce témoignage. Comment est-ce que vous avez fait pour recueillir des confidences aussi profondes? C'est un travail d'intimité qu'on essaye de lier aussi avec ces femmes.
Quand on fait un podcast, c'est vrai qu'on n'est pas tenu par le temps. Donc, les entretiens peuvent être assez longs. Donc, au fil de la discussion, effectivement, la parole se dénoue. Et c'est comme ça qu'on arrive à ces confidences, quoi. Et c'est vrai qu'on a oublié que la guerre, cette guerre d'indépendance pour l'Algérie, elle a aussi eu lieu en France et que ces familles d'immigrés algériens et leurs enfants ont vécu au quotidien cette guerre sur le sol de la métropole.
L'un des tournants, justement, à cette période-là, qui a beaucoup marqué, juste avant l'indépendance de l'Algérie, ça a été la décision qu'a pris Maurice Papon, le préfet de police, le 4 octobre 61, d'instaurer un couvre-feu pour les Français musulmans de l'Algérie. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Alors, on reviendra un peu plus tard sur la façon dont tout ce petit monde a été appelé au fil du temps, parce que c'est très intéressant. Et le 17 octobre, le FLN appelle à se mobiliser pacifiquement contre ce couvre-feu. Naïma Hubert-Yahi, là, ça va complètement dégénérer. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Cette nuit noire du 17 octobre 1961, qui a marqué l'histoire de France, puisque c'est le plus grand massacre d'ouvriers à ciel ouvert à Paris depuis la Commune de Paris, met en scène plus d'une trentaine de milliers d'Algériens, hommes, femmes et enfants, dans leurs habits du dimanche, sans armes, marchant pacifiquement, presque, j'ai envie de dire, comme un seul homme, convergent du pont de Beson, de Neuilly, du bidonville de Nanterre et d'autres, de toutes les portes d'entrée parisiennes, vers les beaux quartiers, vers le centre, vers la Seine, pour réclamer la fin de cette décision discriminatoire envers les Français musulmans, comme on disait à l'époque. Ça va se terminer dans un bain de sang et dans l'assassinat, selon les historiens, d'environ 150 Algériens au cours de la nuit et des semaines qui vont suivre, plus de 11 000 arrestations, un peu plus d'un millier d'expulsés vers l'Algérie en guerre, et surtout, cela va faire entrer dans l'imaginaire collectif français la guerre d'Algérie, qui pouvait être lointaine pour certaines familles qui n'avaient pas un fils ou un père qui faisait la guerre et son service en Algérie. Et ces beaux quartiers parisiens ont vu les paniers à salade frapper et embarquer de nombreux manifestants.
Et suite à ces milliers d'interpellations, notamment les femmes vont quelques jours plus tard entrer en scène pour réclamer leur libération. Pourtant, il y a certains hommes qui vont rester détenus pendant très longtemps. Mais c'est là qu'elles entrent en scène véritablement.
En tout cas, médiatiquement, ces femmes qu'on ne voulait pas voir, qui étaient recluses dans les lieux interlopes qui étaient les bidonvilles, s'engagent dans l'espace public et réclament tête haute la libération de leurs hommes, de leurs fils. Et cette manifestation de femmes algériennes va marquer la chronique, va être immortalisée par les photographes de l'époque et va même faire l'objet d'un reportage dans le Paris Match, qui est le magazine le plus lu en France à l'époque. Ces femmes algériennes entrent médiatiquement dans l'espace public et politique et ne le quitteront plus, puisqu'avant on estimait que c'était une noria de travailleurs nord-africains et algériens en particulier, et on ne voyait pas en tout cas cette immigration familiale.
On va faire un petit saut dans le temps, justement pour parler de l'évolution de cette parole des femmes.
La génération qui arrive dans les années 80, c'est une génération, elle est remplie de colère, parce que cette colère, elle est alimentée par toujours cette façon de dénigrer l'autre, cette façon de stigmatiser, cette façon de voir qu'on est inférieur, les Fatma. Nous, c'était les Fatma, j'ai cherché comment on m'appelle. La Fatma, nous, les jeunes femmes, on est en France, bien sûr, on se bat, on veut notre indépendance, notre autonomie et tout, en tant que sujet à part entière. Et moi, j'ai à la fac de droit des gens qui me disent, mais toi, tu dis ça, mais si c'était pas la France, tu serais pas assise là à parler. Grosso modo, si j'étais en Algérie, j'aurais eu peut-être une ribambelle d'enfants. Voilà, moi, j'avais ça comme réponse. Elles sont bêtes, hein, les réponses, parce que nous, on vit dans le dialogue. Peut-être c'est possible qu'on puisse discuter aussi de ça. Mais on ne pouvait pas, parce que ce sont des attaques qui sont ciblées comme vraiment pour déstabiliser, que la Fatma ne doit pas penser. Alors, la Fatma qui ne peut pas penser du côté du français, et la Fatma qui ne peut pas penser du côté des Arabes, des siens, ça faisait quand même ça faisait des femmes révolutionnaires.
La colère de Yamina Benchehni, présidente du collectif du 1er juin, qui lutte contre les violences dans les quartiers nord de Marseille. Naïma Eberyahi et Fatima Mouawad, je vous pose la question à toutes les deux. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, d'être des jeunes femmes ou d'avoir été des adolescentes plutôt à cette époque, révolutionnaires ?
Alors, moi, oui, révolutionnaire, peut-être pas, rebelle en tout cas. C'est-à-dire que moi, j'ai dû me battre pour ma place de femme au sein de ma famille, parce que les traditions étaient très, très lourdes, très, très pesantes. Et j'ai dû mener ce combat-là.
Ce qu'elle évoque, Yamina, c'est ces femmes de la deuxième génération, ces enfants illégitimes. Est-ce qu'on pourrait revenir avec vous justement sur ces terminologies de la première génération, deuxième génération et puis troisième ?
Alors oui, je me suis d'ailleurs questionnée lors de mon podcast. Donc ces générations, mais ce n'est pas au sens génération 20 ans, c'est-à-dire entre les parents, les enfants, à peu près, je crois que l'INSEE, c'est
à peu près 20 ans, je crois.
Voilà, une vingtaine d'années. Là, c'est la première génération, ce sont les immigrés qui sont arrivés, c'est-à-dire qui sont nés en Algérie, qui sont arrivés en France. Et la deuxième génération, ce sont les enfants de ces Algériens qui sont nés en France. Et elle est très vaste, cette seconde génération, parce qu'il y a des femmes qui ont 70 ans et puis d'autres plus jeunes, 50 ans, hein, mais encore plus jeunes, parce qu'il y a encore aujourd'hui des secondes générations.
Ce qui est impropre dans le cas des Algériens en France, c'est qu'on pense que la seconde génération serait figée dans les années beurre, dans les années 80, une jeunesse qui a une vingtaine d'années au début des années 80. Et sauf que l'immigration jeune, elle est en métropole depuis la fin du 19e siècle. Donc il y a déjà des arrivées et des familles qui arrivent depuis au moins la Première Guerre mondiale. Donc les enfants d'immigrés, il y en a déjà dans la première moitié du siècle. Et celle qui a été le plus vue ou visible, et qui était en colère, comme Yamina et toutes ses camarades de lutte, hommes et femmes, c'est ces enfants d'immigration post-coloniale qui vont naître avant 62. Ou juste après l'indépendance, qui vont accéder à cet âge de l'adolescence au début des années 80, une petite vingtaine d'années après l'indépendance de l'Algérie, et qui vont se retrouver dans un continuum colonial de discrimination. Donc relégués dans le logement, relégués dans le travail, subissant des ratonnades. Au début des années 80, entre 80 et 83, plus d'une quarantaine de jeunes maghrébins sont assassinés. Un certain nombre de militantes, puisque c'est beaucoup les filles au début qui se sont mobilisées dans le champ associatif, se mobilisent parce qu'elles perdent un père, un frère, et elles montent au créneau contre le racisme et les discriminations.
Et c'est justement ce que raconte Yamina un tout petit peu plus loin dans l'épisode 2 du podcast.
Sur Marseille, on a eu pas mal de, comme il disait, des ratonnades. Moi, j'ai vécu ça avec mon père. Le soir, il ne fallait pas sortir. Il interdisait à mon frère de sortir. Mes grands frères sortaient avec des Françaises. Ils allaient en boîte de nuit. Et ma mère, elle disait, tu vas finir mort. Traite-t-elle, mort. Tu finiras mort. C'est dur quand même. Hein. Donc on a vécu dans la famille, dans l'idée qu'il fallait faire attention. Tout le temps, tu fais attention où tu mets les pieds, à qui tu parles. Parce que la menace, en fait, ben, c'est intéressant. Hein, parce qu'on pense que la menace dans la société française, c'est l'immigration. Alors que moi, j'ai grandi dans une société française où la menace, c'était la société française.
Alors, Yamina Benchehni, ses propos très forts, on l'a entendu. Elle a été très impliquée, notamment dans la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Naïma Eberyahi, est-ce que vous pourriez nous raconter en quoi consistait cette marche et comment est-ce qu'elle a ensuite été récupérée politiquement ?
Au début des années 80, se cristallisent des mouvements contre des expulsions, ce qu'on appelait la double peine, avec des jeunes maghrébins qui faisaient l'objet... suite à des condamnations pénales d'arrêter leur demandant de quitter le territoire alors qu'ils étaient arrivés très jeunes en France. D'autres ont fait l'objet de violences policières ou de crimes racistes et sécuritaires. Et c'est dans ce contexte-là que se structure un mouvement associatif portée par les enfants d'immigrés, qui va déboucher vers une traversée pacifique de la France, un peu la Martin Luther King, à partir de Marseille le 15 octobre 1983, avec une quinzaine de jeunes issus du plateau des Minguettes, qui viennent dire à la France leur droit de cité en France. Un des slogans, c'était « Rengainés, on arrive », contre les fameux tontons flingueurs qui assassinent les jeunes Arabes. Ces filles et ces garçons vont voir grossir leur rang tout au long de cette marche vers l'égalité et contre le racisme pour arriver avec un comité d'accueil d'un peu plus de 100 000 personnes. Le 3 décembre 1983, un accueil par le président François Mitterrand et une loi en faveur d'une carte de résidence de 10 ans qui ne les concerne pas, puisque eux ils sont en grande partie français, puisqu'ils sont soit fils de harkis, soit nés après 62 et bénéficient du droit du sol, et en tant qu'enfants d'Algériens, de toute façon, ont un droit au séjour qui est plus favorable du point de vue des accords d'Évian.
Donc leur message, finalement, n'a pas été entendu à ce moment-là.
Non, c'est le grand malentendu de 83, mais il ouvre une ère favorable, une mode beurre. À l'époque, on dit le beurre is beautiful, sur le modèle du black is beautiful, qui va avoir émergé une génération spontanée, notamment artistique, dans la chanson « Carte de séjour avec Rachida », l'humour c'est Smaïn, chez les chanteuses c'est les Djourdjoura, donc on a comme ça une movida culturelle, mais cet engouement va s'arrêter relativement vite, notamment sous la cohabitation avec la droite en 86 et la fameuse loi Pasqua, qui viennent pointer du doigt à nouveau l'immigration comme le bouc émissaire de la société française, et ensuite le retour du religieux qui vient défrayer la chronique à la fin de la décennie.
Et ce sentiment de n'avoir pas vraiment sa place dans un pays ou qui ne nous fait pas sa place, vous le décrivez, Latifa Mouawed, notamment dans l'épisode suivant, où vous allez partir en Algérie pour ce que vous pensiez être des vacances au début. On est à quelle année
C'est 86. Alors 86, il faut savoir que dans ces années-là, il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient envoyées en Algérie pour être mariées. Bon, ce n'était pas mon cas. Ou parce que nos parents avaient peur, c'est-à-dire avaient peur qu'on devienne trop française, voilà, qu'on soit dilué finalement dans la société française. Et c'était le retour au pays, c'était un moyen de contrer cela.
Et donc on va partir avec vous à Marnia, en compagnie de la voix de Raja Meziane, autrice et compositrice, rappeuse algérienne, qui est née elle aussi à Marnia, mais en 1988, donc vous étiez déjà grande, là où nous ferons escale avec vous juste après.
لموني قالوا راجع الغرام عمرك ما حكيتي ملي نشفوا لك في تصورك عمرك كنتي ما ضحكتي كبرتي في البلاد وما فهمناش واش قلتي حتى رحتي واش راكي مع الغربة ما زال مجروحة ولا بريتي 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 كل ضربة بطيحة ونوضة حتى يفنى واش بقالي هما نحولي وربي عطاني شكون بحالي بديام الزيرو تعرفني ونعرفها ويا دلالي ما ضحكت ليش الدنيا ضحكت لها علاج المورالي مورالي 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 فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو فورما دي زادو قاع نطيرو بروجي ضرب في الزيرو كابيسة ما دعياش في الصباط قالوا جامي توصلي كتفك صغر يا راجا غير اختك غير ابوندوني راك ناسي خيو باللي الجرين تا تمشي في دمي نخرج من بلاد نصدم البلاد والنافيغي زماني 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 زماني
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI, une émission consacrée aujourd'hui
aux femmes de la diaspora algérienne en France d'hier et d'aujourd'hui. Avec nous en studio, Latifa Mouawed, journaliste, consoeur journaliste pour RFI, et Naïma Hubert-Yahi, historienne et spécialiste du fait culturel de l'immigration. On l'a dit, Latifa Mouawed, vous arrivez à ce moment-là, dans les années 86, en Algérie. Quelque chose qu'on va préciser aussi à l'époque, Naïma Hubert-Yahi, le gouvernement français met en place une prime au retour, une mesure qu'on a aussi appelée Million Stoléru, du nom du secrétaire d'État qui a mis ces mesures en place. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement ?
Alors, il s'agissait d'une somme permettant le rétablissement dans le pays d'origine de l'immigration, qui était devenue indésirable en période de disette économique et de désindustrialisation de la France. Bien évidemment, cette proposition, elle visait surtout les Maghrébins, mais c'est pourtant surtout les Portugais et les Espagnols qui l'ont utilisée, même si un certain nombre de familles, notamment algériennes, en ont bénéficié. On estime un peu plus de 17 000 Algériens qui ont été bénéficiaires de ce dispositif sur à peu près 98 000 personnes.
Contre le million visé par la loi.
Contre le million visé par la loi, on est loin du compte. Et surtout quand on parle des Algériens, qui sont ceux qui ont le moins mobilisé cette aide, qui sera reconduite sous gouvernement socialiste et possiblement activée jusqu'en 86-87. Donc les politiques du retour du million Stoléru sont accompagnées par des cours de langue d'origine dans les écoles primaires en direction des enfants de l'immigration pour favoriser le retour, et avec une émission de télévision censée glorifier la culture et le pays d'origine qui s'appelait à l'époque Mosaïque. Mais bien sûr, ça a eu l'effet contraire puisque ça a plutôt inscrit culturellement l'immigration en France plutôt que de, j'allais dire, glorifier le lien avec la terre des origines qui ne les attendait pas du tout les bras ouverts, notamment en termes de logement et en termes de travail, aussi en termes de mœurs. Ça a fait l'objet, par exemple, d'une comédie qui s'appelle « Prends 10 000 balles et casse-toi » de Mahmoud Zemmouri, qui mettait en scène le choc culturel entre des enfants d'immigration qui rentraient et le pays d'origine.
Ça a été un de vos chocs culturels à vous, Latifa Mouawed. Vous êtes arrivée donc à Marnia en 1986. Pour situer Marnia, c'est...
Alors, c'est à la frontière du Maroc. C'est à une cinquantaine de kilomètres du Maroc, d'Oujda. Et c'est la ville du Trabendo, donc la contrebande entre les deux pays. Et aujourd'hui, c'est une ville où il y a beaucoup de départs de migrants algériens, les Haraga. Et c'est la ville de la désolation un peu. Hein. D'ailleurs, les Algériens la surnomment aujourd'hui l'impasse.
Et vous vous retrouvez un peu dans une impasse, justement.
Exactement.
Vous aussi, quand vous arrivez là-bas. Il n'y a pas de lycée français. Vous vous retrouvez dans une école où les cours sont enseignés en arabe. Et donc, naturellement, vous vous associez avec vos camarades nés en France comme vous.
Oui, c'est ça. On a fait on a créé notre communauté, hein, comme l'ont fait nos grands-parents et nos parents en France, finalement. On a reproduit là-bas ce qu'eux avaient fait ici.
Ce qui est complètement
ici.
Naturel, mais ce qui est encore une fois mal compris.
Oui, puis bon, on était adolescentes, j'étais adolescente, c'était difficile, hein, le choc des cultures. Enfin, on n'a pas compris ce qui nous arrivait. Hein. On nous surnommait les Tchitchisida. Les années 80, c'était l'époque du sida. Et dans la rue, c'était ça. On nous interpellait au nom de Chichi Sida.
Chichi, ça veut dire...
Ça veut dire, c'est la jeunesse dorée algérienne. Et ben voilà, donc la jeunesse dorée. Donc on est des filles faciles et qui forcément ont le sida à cette époque-là.
Alors dans l'épisode 3 de votre podcast, justement, vous évoquez avec vos amis ce mythe du retour au pays, un rêve pour les parents mais beaucoup moins pour les enfants, et le dilemme de l'habillement. C'est l'une de vos amies, Malika, qui en fait les frais.
C'était aussi une question de survie. Moi, je me suis fait beaucoup, avec Nassara, beaucoup, beaucoup caillasser, mais vraiment beaucoup. Une fois, je me suis pris un coup de poing dans la figure, je suis tombée par terre. Donc, je me suis pris des œufs dans la tête, je me suis pris des cailloux. Enfin, j'ai découvert la violence là-bas. Et du coup, c'était même pas une question de comment je vais m'habiller aujourd'hui, c'était une question de survie, en fait. C'est est-ce qu'aujourd'hui, je vais me faire taper ou pas ? Donc, tu fais en sorte de pas attirer le regard, de pas montrer un bout de peau, comme disait Nouria, vraiment de rester, de fondre, d'être d'essayer, oui. Parce que parfois, tu peux être surpris, même avec... Alors, moi, je portais beaucoup de pantalons, et même le pantalon... C'était aussi un signe ostentatoire d'une liberté qu'il ne voulait pas voir.
Alors, on sent l'énorme pression sociale que vous avez subie. Est-ce qu'elle est liée, selon vous, à un rejet de la France, parce que vous symbolisiez un petit peu ça, la Française que vous étiez, ou c'est purement lié à une forme de patriarcat ? En fait, est-ce que, si vous aviez été un garçon, ça aurait été différent ?
Oui. Oui, oui, parce que moi, quand j'y étais, j'étais donc chez mes grands-parents et il y avait mes oncles hein, qui étaient aussi français. Et c'était beaucoup moins compliqué pour eux. Pour les garçons, oui, il y avait donc il y a à la fois le patriarcat, mais il y avait également le rejet de la France. Ça, on le sentait bien dans les insultes au quotidien.
Ce qu'elle évoque aussi, Malika, c'est le fait de se faire toute petite, de ne pas attirer le regard. C'est ce que vous racontez dans l'épisode suivant. C'est un peu un fil rouge aussi de tout ce podcast. Vous penchez spécifiquement sur l'intime et les relations amoureuses dans cet épisode 4. Conversation entre amis que vous avez enregistrée, où on retrouve encore une fois Malika.
Quand je sortais avec Wassini, ma mère et ma grande sœur m'ont emmenée chez le gynécologue pour voir si j'étais vierge. Parce que moi, je sortais avec lui devant tout le monde le savait, on me voyait avec lui. Et donc, on a dit, bon, là, attention, il a dû toucher. Et le gynécologue, je me rappelle, il m'a traumatisée, il m'a fait mal.
C'est violent.
Mais du coup, ce que tu racontes de ton histoire, c'est quand même bien ta mère, ta sœur qui te dit ah ouais mais attention mais moi je parle des autres mais toi tu dois quand même rester vierge et ne pas faire ce que tu veux de ton corps et c'est là où effectivement alors il y a une pathologie, c'est comme tu parles de schizophrénie, mais il y a encore des histoires comme ça où des mères et des femmes qui continuent de véhiculer ce honte à toi si t'es pas vierge.
Maman avait honte de m'emmener, donc elle a envoyé à ma grande sœur pour m'emmener chez le gynécologue et moi j'avais...
Pourquoi elle avait honte de
parce que c'est un gynécologue et donc tout le monde va savoir, on n'emmène pas une petite chez le gynécologue, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà. Voilà. Donc il fallait que j'y aille avec ma grande sœur.
Dès que tu parlais avec un mec, ouais. Forcément tu avais couché avec lui.
Voilà.
Forcément. Voilà.
Alors cette injonction à ne pas faire honte à sa famille en fonction de ses relations amoureuses, même, on l'a compris, adolescente ou même préadolescente, c'est ce que vous avez appelé, c'est ce qui s'appelle Latifa Mouawed.
L'archouma.
Qu'est-ce que c'est l'archouma ?
C'est un concept sociologique, je laisserai peut-être Latifa le dire de son point de vue, mais c'est l'honneur de la tribu. Il ne faut pas ramener l'opprobre. Pour les garçons, c'est la police, et pour les filles, c'est d'être la fille facile, que tout le monde, entre guillemets, dans le quartier, s'est fait, ou qui aurait perdu sa virginité avant le mariage officiel, l'accord des deux pères qui donnent leur fille, parce qu'on donne la fille. La fille n'est pas propriétaire de sa destinée et de son corps. Et cette approche patriarcale de la tribu, elle se perpétue en immigration et dans la terre d'origine. Et c'est ce conflit de loyauté qui va caractériser la place des filles maghrébines dans les années 80. Je ne dis pas que ce conflit a disparu, mais bien sûr, il s'est étiolé, puisque l'immigration s'enracine et les mœurs évoluent, mais les attentes envers les jeunes femmes à l'époque constituent déjà un conflit de loyauté pour elles entre le poids du patriarcat des origines et la société émancipatrice, en tout cas qui se veut comme telle à l'époque pour elles, dans les années 80. Et ça donnera ce qu'on a appelé les fugueuses, beaucoup de jeunes femmes qui partent de leur foyer et qui font l'objet d'un travail associatif d'accompagnement de certaines filles dont je vous parlais tout à l'heure qui s'engagent pour l'égalité contre le racisme, contre les violences faites à leurs frères dans l'espace public, mais aussi contre les violences intrafamiliales, notamment les mariages forcés, le fait de devoir quitter et trouver donc un logement et une situation professionnelle et le poids de la fierté et donc de l'honneur de la tribu qui repose sur les épaules des femmes, les mères comme les filles, d'où la complicité des mères à l'époque dans ce prolongement du patriarcat pour faire respecter la culture d'origine qui passe par le mariage et le tabou que représentent les relations sexuelles avant mariage.
Et c'est ce poids justement que raconte Fatima dans ce podcast.
Le moment où j'ai décidé de perdre ma virginité, ça a été quand même un processus Donc il faut savoir que on se marie vierge. Hein, dans la famille d'où je viens, dans la communauté, si on peut dire ça comme ça, à laquelle j'appartiens, ou dans cette culture, il est de coutume, voire fortement conseillé, voire obligatoire, de se marier vierge. Sur mon chemin, j'ai surtout rencontré des jeunes femmes qui me racontent des histoires où elles se sont gardées vierges pour leur mari, et ensuite ce mari les a trahis, les a trompés, les a battus, et je me suis dit, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir me marier vierge. Et à partir de là, ma virginité est devenue comme un poids physique qui était trop lourd pour moi et dont il fallait que je me débarrasse. Ne la donner ni par amour ni par devoir. Et donc, je me souviens, voilà, j'étais invitée chez un ami. Et quand j'ai vu son frère, qui avait mon âge, je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé sexy, je l'ai senti doux. Et j'ai senti aussi que je lui plaisais. Et je me suis dit, tiens, c'est avec lui que je vais décider de perdre ma virginité, de m'en débarrasser. Voilà, une soirée, on s'embrasse, on se déshabille. Et puis, alors j'ai envie de dire, il me fait l'amour. Pendant que lui me faisait l'amour, moi j'étais dans ma tête. Je conscientisais que je me débarrassais de quelque chose. Je me disais, je ne suis pas une pute, je ne suis pas une salope, je ne suis pas une pute, je ne suis pas une salope.
Latifa Mouawet, ce poids de la virginité qu'a ressenti Fatima et l'obligation de s'en débarrasser, est-ce que ça existe encore aujourd'hui chez la jeune génération ?
Alors, ça existe, mais c'est très peu, hein, je pense. En revanche, il y a un vrai retour, mais voulu. C'est-à-dire que j'ai rencontré, moi, chez les jeunes générations, des jeunes femmes qui veulent se préserver pour leur mariage.
Voilà. Et vous en expliquez pourquoi ?
C'est un choix. Là, je pense que le choix est aussi lié aux religieux, mais il est voulu. Mais pour revenir à l'achouma, effectivement, il y a le sexe qui est un sujet tabou, mais l'achouma, c'est beaucoup plus vaste. C'est vraiment un code moral, un code d'honneur. C'est comment on se comporte. Voilà, on ne doit pas faire honte à sa famille, dans ses paroles, dans la façon de s'habiller, dans la façon de se tenir. C'est vraiment un code qui gère un peu les relations sociale au sein de la communauté.
Et toutes les générations, entre guillemets, pour reprendre ce terme, en font les frais ?
Ben oui, parce que même les jeunes que j'ai rencontrés, elles m'ont parlé de l'achouma. C'est, voilà, c'est encore très ancré.
C'est le fameux « ça ne se dit pas, ça ne se fait pas ». C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la police pour les garçons. On ne va pas demander à un garçon d'être vierge au mariage, mais on va lui demander de ne pas ramener la police, parce que les rapports des jeunes maghrébins en France avec la police sont difficiles, et c'est la hantise des familles immigrées encore aujourd'hui. Alors sur la question des mœurs et de la virginité aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt moralement, c'est toujours une valeur sûre, mais on n'ira plus, il n'y aura plus le contrôle social qu'il pouvait y avoir il y a 20 ou 30 ans, où on allait emmener la jeune fille chez le gynéco, demander un certificat de virginité. Ça, c'est désuet. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. On part du principe que c'est un non-sujet, mais le contrôle social ne se fait plus comme il se faisait pour les filles, on va dire, de cette fameuse seconde génération des années 80.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des attentats de 2001, l'arabe qui posait problème s'est transformé en musulman qui pose problème. Voilà. Et en fait, les attentats, c'est terrible, ça a ouvert une porte pour tous ceux qui avaient des problèmes avec les maghrébins en France. Et ben en fait, ils ont trouvé une raison de pouvoir s'exprimer en disant qu'ils ne les aimaient pas, en les traitant tous de terroristes. Comme ça, c'est beaucoup plus simple, et puis c'est beaucoup plus parlant. Donc la femme maghrébine, moi je sais que par exemple, dans mon travail à l'époque, on est passé du moment où on me demandait, donc avant 2001, on me demandait, mais Nora, est-ce que tu sais faire du couscous ? Est-ce que tu sais faire la danse du ventre ? Donc voilà. Ah, Nora, est-ce que tu manges halal ? Est-ce que tu fais tes 5 prières ? Donc on voit vraiment, mais c'est, en plus c'est une scission très nette dans le comment dire, l'image des gens par rapport à la femme maghrébine. On est passé de la beurette exotique à la femme musulmane qui va un peu nous casser les pieds, parce que la femme musulmane, elle a envie de pratiquer. Elle n'a pas envie d'être stéréotisée, elle a envie voilà, d'être une femme normale et pratiquer comme elle a envie, quoi.
Je rappelle que deux de nos soldats étaient, comment dire, musulmans, en tout cas d'apparence, puisque l'un était catholique, mais d'apparence.
Nora, une des femmes que vous avez interviewée pour votre podcast, Latifa Mouawed, qui fait partie de la police.
Elle est même plus que ça. Elle a été la première femme maghrébine agent d'élite dans les renseignements généraux français. Et elle a été la première à infiltrer les réseaux islamistes après les attentats de septembre 2001.
Et à côté, on entendait, vous avez reconnu Nicolas Sarkozy, qui a été un petit peu son patron, puisqu'il était ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Latifa Mouawed, vous racontez justement dans le podcast votre réaction à ces propos, les propos de Nicolas Sarkozy, musulman d'apparence,
oui,
que ça évoque.
Parce que j'ai l'impression qu'on ne sait toujours pas comment nous nommer. J'ai été en tant que seconde génération la beurette, d'origine algérienne. Maintenant, je suis musulmane. C'est complexe, quoi. J'ai l'impression que la société française n'arrive pas à nommer ces Français issus de l'immigration. Hein, et encore aujourd'hui, quand ce n'est pas quatrième, cinquième génération, on est devenus des Français musulmans, un peu comme nos grands-parents hein, quand ils sont arrivés en France.
Comment on est passé justement, Naïma Uberyahi, à ces différentes terminologies, fille issue de l'immigration, à beurette, puis musulmane?
On pourrait remonter à odalisque, on en a plein, hein, des labels pour ces femmes-là. Non, je dirais simplement que c'est le fameux colorblind, où on nous explique les races n'existant pas, et on est tous d'accord avec ce fait, hein. Il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a l'expérience sociale qui est différente. Et il y a les imaginaires, surtout quand on parle des Algériens. Et quand on va jusqu'à parler de musulmans d'apparence, on parle de quoi? Qu'est-ce qui est apparemment appartenant à l'islam? Ses cheveux crépus, son teint, son regard, son nom. Moi, un jour, on m'a dit, vous avez un nom à consonance musulmane. J'avais jamais entendu ça. Donc c'est cadeau, Latifa. Il y a la consonance musulmane et l'apparence musulmane. Je dirais simplement que c'est un imaginaire qui ne veut pas se déconstruire et qui ne veut pas inscrire dans le récit collectif ces populations qui sont issues du fait colonial. Qu'elles soient afro-caribéennes, qu'elles soient nord-africaines ou asiatiques. Et c'est une difficulté en France qu'il faut lever, notamment à travers une mise en récit. Et moi, j'invite nos auditeurs à réfléchir au concept d'identité narrative. C'est ce que fait ce podcast de Latifa. Il met en récit une expérience, celle des enfants de l'immigration, du point de vue des filles, des femmes, et permet de dire en quoi elles appartiennent à l'histoire de France, avec cette singularité du fait colonial, du fait de l'immigration, dans un temps précis, et dit encore aujourd'hui comment on perçoit ces jeunes femmes. Parce qu'aujourd'hui, le mot beurette est associé à la figure pornographique, alors qu'il a une réalité sociologique, celle de la génération d'Atifa et de moi-même, parce qu'on n'a pas le même âge, mais j'appartiens à cet espace-temps. Et aujourd'hui, ces jeunes femmes maghrébines, on ne veut pas les racialiser, mais elles le sont quand même, elles sont maghrébines, du fait de leur patronyme, de leur expérience sociale, de leurs origines, de leur histoire personnelle. Et on continue à les enfermer dans un imaginaire érotique suspect. Puisque avant, on disait la beurette est l'avenir du beurre, dans les années 80. Mmh. La fille, c'était la fille funky, les cheveux bouclés, jolie, le mannequin Farida Khalfa. Et aujourd'hui, c'est l'ennemi intérieur qui pourrait porter une burqa et être, entre guillemets, inassimilable et être le bras armé de l'islamisme politique. C'est comme ça qu'on voit ces filles, par exemple, qui choisissent de pratiquer leur religion en portant un voile ou avoir une pratique religieuse qui se voit et du coup être hors de la communauté nationale. Et c'est là que viennent frapper à la porte les débats sur la laïcité qui vient contrôler le corps des femmes. Et les femmes, hier comme aujourd'hui, dans l'immigration ou en France en général, deviennent l'objet de disputes sémantiques sur ce qu'il faudrait ou pas qu'elles portent et la manière dont elles devraient ou pas se comporter dans l'espace public. Et c'est un peu ce que tente d'approcher le travail, je trouve, de Latifa, de comprendre ce cheminement,
cette trajectoire
des femmes maghrébines en France depuis l'indépendance de l'Algérie, comprendre les conflits de loyauté, le patriarcat du milieu familial d'origine, de la société algérienne qui ne comprend pas ces jeunes femmes nées en France ou qui ont grandi en France, et la société française vis-à-vis de ces jeunes femmes qui continuent de colporter un imaginaire exotique et discriminatoire.
Et c'est justement à ces jeunes que vous donnez la parole dans le dernier épisode, hein, ces jeunes qui sont en quête d'identité. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, malheureusement, mais on vous invite en tout cas à écouter le podcast de Latifa Mouawad et de Jérémy Besset sur le site RFI.fr ou sur toutes les plateformes
de podcast.
Exactement. Est-ce qu'il y aura juste d'autres épisodes ?
Je ne sais pas encore, mais j'y réfléchis.
Ça sera la surprise. Alors, Latifa Mouawad, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous, Naïma Uberiaï, d'être venue nous parler de cette diaspora algérienne. On va se quitter tout de suite avec Camélia Jordana et Mon Roi sur RFI.
Quand tes yeux me sourient, en moi c'est tout. Lorsqu'en arrière tu ris, je veux ton cou. Là si mon cœur chante, c'est que tes mains jouent. Moi je tremble pour toi, un point c'est tout.
De voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Juliette Brault, Elsa Olaizola et Romain Dubrac. Demain, on s'interrogera sur la féminisation des métiers du sport. Pour en parler avec nous, le numéro WhatsApp de l'émission, c'est le 33 7 64 45 51 41. À demain, même heure, sur RFI.
Sept milliards de voisins, c'est fini.